Le critère des bons fruits comme critère ultime de discernement, point d'interrogation. Donc si j'ai choisi ce thème, c'est parce que je pense qu'il est d'actualité par rapport à deux réalités complémentaires, à savoir que des communautés nouvelles ont vécu un développement pléthorique, mais ont eu des fondateurs déviants. Et puis également dans un autre domaine, de nombreuses grâces ont été reçues dans des lieux d'apparition mariale problématiques ou même récusés par les évêques. Donc comment comprendre ce phénomène qui apparemment est contradictoire? Comment l'interpréter? Et beaucoup de gens avancent alors cet argument, mais regardez les fruits, les bons fruits qu'il peut y avoir, ou bien dans ces lieux spirituels, de pèlerinage, ou bien encore dans ces communautés qui sont quand même très nombreuses. Et on va jusqu'à affirmer que même si le fondateur est corrompu, la communauté est bonne, puisque le nombre important de membres, les œuvres florissantes l'attestent. Ou bien encore, la Vierge Marie est très certainement apparue ici, puisque il y a beaucoup, beaucoup de monde, de nombreuses conversions, guérisons, vocations, donc certainement que les messages transmis viennent du ciel. Donc on ne va pas chercher plus loin, et on met en avant cet argument des bons fruits, mais est-ce que c'est suffisant pour résoudre le problème posé par une origine problématique parce que corrompue? Donc je pense qu'il faudrait revisiter les textes bibliques. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. J'ai intitulé un premier paragraphe « Le fruit du disciple ». En prenant l'allégorie de la vigne dans Saint Jean chapitre 15, versets 4 et 5, vous connaissez comme moi, Jésus dit « Demeurez en moi comme moi en vous ». De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Et à la fin de ce paragraphe, il dit « C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et que vous deveniez mes disciples ». Et dans ce dernier verset, vous avez à la fois le mot « fruit » et le mot « disciple ». C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Et donc le fruit, c'est le fruit du disciple. Par ailleurs, il est tout à fait clair que c'est lui, Jésus, qui nous fait porter le fruit véritable. Ce fruit est le fruit du disciple et Jésus nous demande simplement de demeurer en lui, comme c'est dit et redit plusieurs fois, « Demeurez en moi, comme moi en vous ». Une affirmation vraiment toute simple, mais qui a des conséquences tout aussi simples pour notre vie en Église, c'est que, en effet, subrepticement, la place première de Jésus, la place centrale de la personne de Jésus, peut être squattée, peut être remplacée par différentes réalités qui peuvent s'immiscer entre Jésus et nous-mêmes, jusqu'à produire dans certains cas un écran opaque qui va créer une dérive. Alors on pourrait citer dans ces cas-là par exemple une personne, ça peut être la personne du fondateur, la personne de la voyante, la personne des messagers qui prétendent recevoir des locutions ou des paroles du ciel, la personne du prédicateur à la mode pour des retraites ou des rassemblements. Ça peut être une doctrine, l'enseignement du fondateur par exemple, ou qui est absolutisé, ou bien les messages des voyants qui sont vraiment mis en avant et pris pour parole d'évangile. Troisièmement, ça peut être un moyen aboutissant à un système. Par exemple, une inspiration communautaire, où ce matin on a parlé de PRH, une réalité de développement personnel, une intuition de développement personnel qui est tellement mise en avant qu'elle prend une place indue et finit par devenir le seul point de référence. Ça peut être une pédagogie d'évangélisation qui va être à ce point prégnante qu'on va tout faire passer par cet entonnoir. Quatrièmement, on pourrait dire aussi la place de Jésus peut être squattée par un lieu phare, par exemple un lieu possible d'apparition mariale ou encore des lieux de retraite spirituelle prisés. Cinquièmement, je dirais la place de Jésus peut être squattée aussi par un courant spirituel marqué par des phénomènes extraordinaires qui répondent au fond aux besoins de merveilleux qu'il y a chez les personnes et qui les attire comme des mouches en quelque sorte. Donc chaque fois que la personne de Jésus est ainsi rendue périphérique, mais tout en demeurant présente évidemment, les fruits qui vont se dégager ne seront plus les fruits d'un disciple de Jésus. Ne seront plus les fruits d'un disciple de Jésus. Les fruits pourront aussi éventuellement être tout simplement de mauvais fruits, puisque Jésus lui-même les a évoqués, ce qui permettra de poser alors la question d'une purification. Mais très souvent, les fruits seront de beaux fruits, très séduisants, qui se feront passer pour des bons fruits. Et la différence que je fais entre beaux fruits et bons fruits, et personne en fait n'y voit rien. Ce qui pose la question de la transparence entre la personne de Jésus et, par exemple, un fondateur de communauté. Prenez Saint Bruno, dont c'était la fête hier, prenez Saint François, Saint Dominique, Saint Ignace, ou la transparence encore des voyants qui transmettent le message de la Sainte Vierge. Prenez Sainte Bernadette, les enfants de Fatima. Il y a là une transparence. Et en sens inverse, on peut poser la question de l'opacité qu'il peut y avoir au niveau des, soit des fondateurs, soit des transmetteurs. Alors évidemment, si on veut prendre un cas de figure, un cas d'école, un cas extrême, on va aller chercher celui de Martial Maciel. Et par exemple, Jean-Pierre Denis, éditorial de La Vie du 13 mai 2010, Jean-Pierre Denis écrivait « Tous les grands ordres religieux reposent sur le charisme d'un saint, vers lequel il faut sans cesse revenir pour se ressourcer. Or ici, le saint, c'est un imposteur, dont le culte a été poussé jusqu'à l'idolâtrie. Les légionnaires n'ont pas dérivé, mais fonctionné dès les premières années sur un mensonge, sur une culture de la dissimulation de ce même mensonge, et sur le culte d'un menteur de génie, d'une perversion si diabolique qu'il ne peut jaillir quoi que ce soit d'évangélique. » On ne peut davantage démacialiser la Légion que déstaliniser ou déléniniser le communisme. On ne peut fonder un avenir ni sur une photo retouchée, ni sur un trou béant. Bon, c'est évidemment un petit peu carré comme affirmation, mais après tout, on peut réfléchir en ce sens. Lorsque l'opacité qui est créée provient de péchés publics, évidemment, la communauté ou le courant spirituel ne seront pas indemnes, car il y a forcément un cercle rapproché, faut pas que nous soyons naïfs, il y a un cercle rapproché qui est complice, donc il y a un système pervers qui est mis en place et qui produit des victimes. Il y a un lien de filiation à ce moment-là entre le fondateur ou le voyant et puis la communauté ou le courant spirituel. Il y a une filiation qui ne peut pas être éludée. Un fondateur aux mœurs dissolues, ou bien un fondateur à la gouvernance manipulatrice, aura forcément échangé le silence protecteur de son cercle rapproché contre l'acceptation de déviances similaires en son sein. Forcément. Et de toute façon, les mensonges et les manipulations accomplis pour masquer les turpitudes auront gravement marqué de nombreux membres engagés. Mais ce n'est pas ainsi qu'on réfléchit. Habituellement, on continue à penser à tort qu'on peut séparer un fondateur pervers et les bonnes œuvres, entre guillemets, de sa congrégation, en affirmant qu'elles n'ont été contaminées en aucune façon par la perversité du fondateur. Et par exemple, le pape Benoît XVI n'a jamais remis en cause les bonnes œuvres de la Légion du Christ, et même après avoir annoncé que Martial Maciel était quelqu'un de pourri, il continue à faire la distinction entre les activités criminelles du père Maciel et les bonnes œuvres réalisées par la majorité des légionnaires et des membres du Regnum Christi. On a même pu aller jusqu'à imaginer qu'on pouvait dissocier le charisme du fondateur et sa personne, ce qui est vraiment une illusion, parce que c'est à travers toute sa personne, sa manière de vivre, d'agir, son apostolat, sa prédication, sa manière de gouverner, sa manière d'exercer la miséricorde à l'égard des personnes, sa manière de célébrer l'Eucharistie, sa vie de prière, mais aussi ses déviances, ses faiblesses, ses péchés, qu'un fondateur lègue son charisme, évidemment. Donc lorsque les déviances et les péchés sont particulièrement prégnants, même s'ils sont cachés, il est clair que la fondation aura à en pâtir, et le plus souvent, elle aussi de façon cachée, comme le péché est également caché. Il faudrait donc réfléchir aux indications de Jésus qui dit « Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. » C'est-à-dire se poser la question « Peut-être vaut-il mieux dissoudre et refonder, en changeant totalement l'équipe dirigeante et aussi les paramètres de formation, plutôt que de laisser des virus se propager sur plusieurs générations. » Mais allons plus loin dans la réflexion, si vous voulez, dans un deuxième point, en lisant dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 20, la question de l'arbre et des fruits. C'est un texte que vous connaissez aussi, où Jésus commence ainsi « Méfiez-vous ». Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans ce sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Et tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a dans ces paroles de Jésus des éléments importants de réflexion. Le premier élément que j'en tirerais, c'est celui-ci, c'est que la duplicité est présente même dans les choses saintes. Et que Jésus nous le fait comprendre clairement. Il dévoile l'existence de faussaires, qui sont appelés ici des faux prophètes, qui sont déguisés à l'extérieur et corrompu à l'intérieur. Il faut retenir ces deux mots, faussaire et déguisement. À l'extérieur, ces personnes semblent appartenir au troupeau, elles sont comme les brebis, mais à l'intérieur, dit Jésus, ce sont des loups rapaces. Et les deux mots juxtaposés, loups rapaces, évoquent deux mots qu'on retrouve dans la question des dérives sectaires, à savoir l'emprise, rapace, et puis l'emprise cruelle, les loups. Donc nous trouvons cette même idée de duplicité exprimée dans d'autres endroits du Nouveau Testament, dans les lettres des apôtres, par exemple Jude, qui n'y va pas par quatre chemins, dans un vocabulaire particulièrement rugueux, dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes, ces impies travestissent en débauche, la grâce de notre Dieu, renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux les écueils de vos agapes, ils font bonne chair sans vergogne, ils se repaissent, nués sans eau, que les vents emportent, arbre de fin de saison, sans fruits, deux fois mort, déraciné. » Vous voyez qu'on retrouve ici la métaphore arboricole. Ou le sauvage que la mer écumante, de la mer écumant sa propre honte, astres errants auxquels les ténèbres épaisses sont gardées pour l'éternité. Jude chapitre 1, versets 4, 12 et 13. Il dit bien, il s'est glissé parmi vous certains hommes. Saint Paul, lui, énumérera le danger des faux frères, vous connaissez, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Le danger des faux frères au milieu de toute une liste de dangers auxquels il a dû faire face. Et Saint Jean, dans sa première lettre, dira « Dès maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus, à quoi nous reconnaissons que la dernière heure est là, ils sont sortis de chez nous. » Même chose. « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous, mais il fallait que fût démontré que tous n'étaient pas des nôtres. Première lettre de Jean, chapitre 2, verset 18. Donc voilà, la duplicité est présente même dans les choses saintes. Un deuxième point que je retire de ce passage de Matthieu, chapitre 7, c'est que Jésus le dit clairement, la méfiance est nécessaire. Je suis désolé de dire cela, mais Jésus nous demande de ne pas être ingénu et naïf, ou bien seulement candides comme des colombes, mais aussi prudents, malins, rusés comme des serpents, hein, Matthieu 10, de garder un bon sens critique, d'avoir une méfiance préalable, méfiez-vous. On peut être surpris de trouver ces mots dans la bouche de Jésus, mais ils figurent à différents endroits de l'Évangile. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin, Matthieu 10. Méfiez-vous des scribes qui se plaisent à circuler en longue robe, etc., Luc chapitre 20. Et saint Jean, dans le même sens, écrit « Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » 1 Jean 4. Troisième point que je sors de ce passage, c'est qu'il y a un critère de reconnaissance qui est donné. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et l'affirmation est répétée deux fois, au verset 15 et au verset 20. Jésus parle d'abord des fruits, et en se servant du choc des images, à savoir que les raisins ne se cueillent pas sur des épines, ni les figues sur des chardons, il introduit l'idée que les fruits sont forcément conformes à leur espèce. Bon, ça n'a rien de nouveau, mais il est clairement dit aussi qu'il y a des bons fruits, mais aussi des mauvais fruits. Mais Jésus parle surtout de l'arbre, en fait. Et c'est l'énoncé central, tout arbre bon produit de bons fruits, tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. Et Jésus répète la même idée, la même réalité, une seconde fois, de façon négative. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté donner de bons fruits. Donc si on voulait paraphraser en positif, on pourrait dire une vie sainte, une structure sainte produise des fruits de sainteté, tandis qu'une vie marquée par les péchés dissimulés ou une structure entachée de corruption, de manipulation, produise des fruits mauvais. Ou si on veut parler en termes négatifs, on pourrait dire une vie de sainteté, une structure sanctifiée, ne peuvent produire des fruits corrompus. Et ni une vie de péché ou une structure corrompue produire des fruits de sainteté. Et Xavier Léger, dont je parlais, dans une contribution au congrès de l'ICSA de cette année aux États-Unis, disait « Un logicien dirait que dans la première partie, le Christ pose une condition suffisante. Si l'arbre est bon, il doit porter de bons fruits. Tandis que dans la seconde partie, il pose une condition nécessaire. Si et seulement si l'arbre est bon, il porte de bons fruits. » Autrement dit, il n'est pas possible de dire qu'un très mauvais fondateur pourrait porter de bons fruits sans tordre le cou aux enseignements du Christ, lequel a anticipé tous nos doutes en établissant une règle explicite et nécessaire qui ne supporte aucune exception. » Fin de citation. Et puis un quatrième point que je sors moi, de ce texte de Matthieu 7, c'est que une action décisive est à entreprendre dans certains cas, il faut se débarrasser de l'arbre mauvais. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe, on le jette au feu, dit Jésus. Ça rejoint une même expression dans l'allégorie de la vigne dans Saint Jean chapitre 15. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors, comme le sarment, il se dessèche. Dans un troisième temps, je propose de pousser le bouchon plus loin dans la métaphore arboricole. Parce que c'est plus complexe que ce qui est dit ici dans l'Évangile. En effet, nous sommes l'Église, et donc la réalité profonde d'une communauté chrétienne, ou encore d'un réseau gravitant autour d'un lieu d'apparition, cette réalité profonde est à percevoir en tenant compte du mystère de la communion des saints. Donc c'est pas simple. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement dans le cadre d'une relation duelle, l'arbre et les fruits, mais dans des relations beaucoup plus complexes, beaucoup plus complexes. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, par exemple, donne l'impulsion par une sorte de mission invisible de l'Esprit-Saint à travers un message donné par la Vierge Marie, par exemple, ou bien à travers le charisme d'un fondateur. Deuxièmement, le fondateur ou les voyants et leur entourage proche ont leur propre vie baptismale, personnelle, leur propre rapport à l'Église institutionnelle aussi. Ça rentre en ligne de compte. Troisièmement, des personnes qui s'agrègent autour d'eux, à la communauté ou bien dans le réseau, ont elles-mêmes leur propre cheminement spirituel de conversion, de sanctification. Quatrièmement, l'Église hiérarchique elle-même, mais aussi le peuple de Dieu, interagissent avec les fruits visibles, soit ils les encouragent par exemple, les protègent, les convoitent même, ou bien ils les ignorent et les rejettent, les condamne, ou encore ils se laissent berner par leur aspect séduisant au point de ne plus pouvoir réagir sainement. Donc le discernement est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Alors je voudrais donner le point de vue de façon positive en distinguant les racines, le tronc, les branches et les fruits, en introduisant de nouvelles données si vous voulez. Les racines, le tronc, les branches et les fruits. Ne pas oublier les racines qui pour tous les baptisés sont les vertus théologales de foi, de charité et d'espérance, et qui plongent profondément au cœur de Dieu pour recevoir la communication de sa vie. Deuxièmement, dans ce que j'appelle l'arbre, de ce que Jésus appelle l'arbre en Jean chapitre 15, je suis la vigne, vous êtes les sarments, on peut donc distinguer le tronc et les branches. Le tronc qui est structuré autour de l'intuition et de la personne du fondateur ou des voyants, ainsi que leur entourage proche, car nul n'est une île, mais aussi les branches, dont on pourrait dire qu'elles sont constituées par le dynamisme de sainteté des personnes engagées dans ces courants ou dans ces communautés. Troisièmement, les bons fruits ou fruits réels qui sont manifestés, par exemple des vies transformées, guéries, converties, des vocations à un état de vie familial, religieux, ou bien à un ministère particulier, presbytérat, évangélisation, ou encore le dynamisme évangélisateur, c'est-à-dire les œuvres de la communauté, les groupes de prière, la diffusion des messages, etc. Tous ces bons fruits, fruits réels, en fait, peuvent provenir de ces deux sources complémentaires imbriquées l'une dans l'autre, à savoir le tronc et les branches. Il faut donc examiner à la fois le tronc communautaire ou collectif, et puis aussi les branches que sont les vies des personnes. Les fruits de sainteté peuvent provenir des deux à la fois. Si maintenant je regarde de façon négative les mauvais fruits, les marques de péché sont aussi des fruits dont Jésus a parlé. Il se peut donc que le tronc corrompu contamine les branches. Mais il arrive aussi que les branches contaminent le tronc en se rendant complices de leurs péchés. Dans tous les cas, qu'il s'agisse du milieu plus fermé, de communautés résidentielles, ou encore du milieu plus ouvert d'un courant spirituel marial ou charismatique, à partir du moment où on ferme les yeux et où on accepte les mauvais fruits, ça, il y a là, à mon avis, vraiment un seuil. À partir du moment où on ferme les yeux, on accepte les mauvais fruits, ce refus de faire la vérité entraîne la mise en place de procédés et d'attitudes de mensonge. Et alors, à partir de là, va survenir le cancer de la manipulation des uns et des autres pour les faire entrer dans ce mensonge qui a été consenti. La manipulation peut provenir du fondateur ou bien de faux mystiques, mais elle ne peut être développée à grande échelle sans l'aide d'un cercle rapproché, encore une fois, dont la complicité permet l'efficacité. Et quand le cancer des procédés manipulatoires se développe, il produit des métastases dans le corps entier à travers des complices et des otages. Et il produit aussi de nombreuses victimes parmi les membres et les participants. Et les trois mots, complices, otages et victimes. Et on peut alors voir apparaître le phénomène des beaux fruits ou des fruits apparents. J'ai dit les bons fruits ou fruits réels. Mais ici, on peut voir apparaître le phénomène des beaux fruits ou fruits apparents. Ceux-ci n'ont que l'apparence des bons fruits, ce sont des fruits trompeurs, en fait, des fruits produits par des procédés de mensonge et de manipulation. Donc vous pensez bien qu'en amont des fruits, il faut examiner les procédés mis en œuvre, la praxis. Au regard des fins, il faut examiner les moyens. Quels sont les moyens mis en œuvre ? Et ces fameux fruits qui fascinent autant les autorités de l'Église, sont-ils aussi bons qu'ils en ont l'air ? En effet, le Christ n'a jamais dit que le mal ne portait pas de fruits. Bien au contraire, le mal porte aussi des fruits, et même de nombreux et de magnifiques fruits. Mais il a dit que les fruits du mauvais arbre n'étaient pas bons. Ne devons-nous pas distinguer les fruits réels des fruits apparents ? Un mauvais arbre produit de nombreux fruits qui semblent très bons au premier regard, mais qui sont en fait extrêmement nocifs. C'est bien là le problème. Rappelons-nous la tentation en Genèse chapitre 3, le démon ne tente jamais avec des fruits moches et pourris, et disait Xavier Léger, toujours dans cette contribution au congrès de l'IXA. Évidemment, je ne peux pas donner des exemples parce que ce serait trop long, mais vous pouvez les trouver sur des sites spécialisés. Mais lorsque les beaux fruits sont confondus avec les bons fruits, la corruption peut s'étendre de proche en proche jusqu'aux plus hautes sphères, produisant une sorte d'anesthésie du jugement critique objectif qui a pour conséquence d'augmenter le nombre des victimes de façon exponentielle. Et les victimes sont à la fois les personnes enfermées dans un système pervers, deuxièmement le peuple de Dieu qui se laisse séduire, et troisièmement les responsables d'église qui soutiennent les corrupteurs de peur de perdre les beaux fruits. Vous savez, quand il y a eu l'affaire Massiel, dont Benoît XVI a dit clairement la corruption en 2006, en fait, on s'est aperçu qu'en 2008, il y avait des cardinaux qui s'étaient déplacés dans les points stratégiques des légionnaires du Christ, des cardinaux haut placés dans la curie, qui sont venus parler à la communauté des légionnaires du Christ de Rome. Et certains extraits des conférences ont fuité. On les a retrouvés dans des journaux mexicains notamment, puisque l'origine, la congrégation est d'origine mexicaine. Et c'est effrayant de lire ce qu'ils ont pu dire en 2008, deux ans après que Benoît XVI ait montré combien le Massiel était un imposteur. Par exemple, le cardinal Dario Castrillonoyos, président de la commission Ecclesia Dei, ancien préfet pour la Congrégation pour le clergé, dit ceci: « Laissez le monde juger. C'est un monde corrompu et hypocrite qu'il juge. Mais de grâce qu'il n'y ait aucun légionnaire qui, comme le mauvais fils de Noé, se moque des fautes de son père. Le couvrir, ce n'est pas étouffer la faute, mais le revêtir avec le manteau affectueux de la famille. » Le cardinal Franck Rodet, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée, dit ceci: chez un fondateur, il peut y avoir des faiblesses, même des problèmes d'ordre psychologique, intellectuel ou moral. Et s'il y a des faiblesses sur le plan moral, nous avons un devoir de miséricorde, de compréhension. La tolérance zéro? Non, non, dans l'Église, nous ne sommes pas comme ça. Cela, nous le laissons aux puritains. Une fois que nous avons reconnu qu'il y a effectivement certaines choses que nous ne pouvons pas approuver, nous devons être à la fois compréhensifs et miséricordieux et nous abstenir de tout jugement. Le fruit est bon. Le fruit est extraordinairement bon. Il est excellent, magnifique. Alors peut-on dire que l'arbre est mauvais? En pure logique, je dirais que non. Et je l'absous. J'absous le père Massiel. Je ne le juge pas. Fin de citation. Le cardinal Angelo Sodano, doyen du Sacré Collège, que vous connaissez, ancien secrétaire d'État: il faut rappeler qu'une tache sur un tableau n'ôte rien. Un nuage dans un magnifique horizon n'empêche pas que l'horizon soit merveilleux. Bon, fin de citation. Donc, au final, on peut aboutir à un aveuglement qui engendre un déni complet quant aux preuves les plus évidentes dévoilant la corruption. Et alors, dans une sorte de démarche d'adepte, quelque peu fanatisé, la démarche, on tient mordicus qu'un arbre particulier, telle communauté ou encore tel lieu d'apparition, est forcément bon, et que les fruits qui semblent avoir été produits par cet arbre sont obligatoirement bons. Et ce type de démarche est marqué par l'absence de sens critique ou par l'emprise mentale. C'est d'ailleurs tout l'art des fondateurs corrompus ou des faux-voyants, développer un puissant pouvoir de séduction qui tient les esprits et les cœurs captifs. Jésus a parlé de loup rapace. Donc, quand on apprend que le tronc est en fait clairement corrompu aux problématiques à sa base, à savoir le fondateur et son entourage, ou encore les voyants et leur entourage, on doit arrêter d'interpréter les choses positives dans cette communauté ou dans ce lieu d'apparition comme autant de bons fruits produits par ce tronc dont nous savons à présent qu'il est très mauvais. On doit au contraire chercher d'autres explications. Il s'agit soit des bons fruits produits par des personnes agrégées, soit des beaux fruits puissamment séducteurs. Quatrième point, la vérité rendra libre, donc je plaide moi personnellement pour un examen plus approfondi. Un examen plus approfondi qui mette au jour la vérité. On ne peut pas se contenter de dire il y a des fruits. Et l'Église a eu probablement tort de faire du rapport arbre-fruit un absolu en ne cherchant pas plus loin. Seul un examen plus approfondi de l'ensemble des réalités gravitant autour d'un fondateur ou d'une mystique peut permettre un réel discernement. Alors sur quoi doit porter cet examen? Premièrement, cet examen devrait tenir compte du cheminement vers la sainteté des personnes engagées dans la communauté ou dans le courant spirituel. Seulement, vous comprenez bien, on est ici dans un domaine qui est à la fois public, à savoir le fruit de l'esprit manifesté dans nos vies, au sens de Galates 5, 22, mais aussi un domaine qui est privé, et nous n'avons pas accès au fort interne, à savoir l'accompagnement spirituel, la confession. Donc, c'est une piste limitée. Il faudrait aussi appréhender comment un climat spirituel général d'une communauté ou d'un courant spirituel retentit positivement ou négativement sur les personnes à travers un épanouissement de liberté, de paix, de joie, de charité, de vérité, de service, ou au contraire de tension, de mensonge, de division, de tristesse, d'emprise, de dépression, de mal-être, de maladie, etc. Deuxièmement, l'examen plus approfondi devrait aussi tenir compte des déviances, des péchés, des mauvais fruits publics de la structure communautaire ou du courant spirituel. Vous avez, si vous cherchez sur Internet, des listes qui sont déjà établies, des listes de mauvais fruits en quelque sorte. Vous avez un site qui s'appelle l'enversdudécor.org. Vous avez cette liste-là, par exemple. Alors, une partie des déviances, péchés, mauvais fruits peut être publique à travers des scandales, c'est de plus en plus le cas, mais une grande partie, compte tenu de la loi du silence et de la propension de l'Église à se protéger en tant qu'institution, une grande partie est souvent cachée, est souvent masquée. Et qui plus est, évidemment, les bons fruits personnels peuvent servir de paravent pour masquer les mauvais fruits communautaires. Et encore un degré plus profond de perversion, les bons fruits peuvent être utilisés pour justifier la maintenance d'une structure dont la perversité est prouvée, mais masquée au plus grand nombre. Donc vous sentez bien la complexité. Il faut aller encore plus loin dans l'examen et essayer de débusquer ces fruits qui semblent tellement beaux qu'ils fascinent et séduisent. Des beaux fruits, plus ils sont fascinants, plus on doit approfondir pour voir s'ils ne sont pas engendrés par des moyens masqués de contraintes et d'emprise. Donc, l'examen doit porter sur la praxis, sur les procédés employés dans cette communauté ou dans ce courant spirituel. Et ces procédés, quand ils sont pervers, la coercition, la manipulation, par exemple, blessent la dignité de l'être humain. Et comme le disait Gaudium et Spes 27.3, tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, les contraintes psychologiques, tout ce qui est offense à la dignité de l'homme, eh bien toutes ces pratiques sont en vérité infâmes. Donc chaque fois qu'on peut constater mensonge, double langage, harcèlement, contrainte, mépris, culte du secret, culte du fondateur, culte des voyants, culte de l'argent, opacité dans la gouvernance, manipulation des esprits, manipulation des émotions, et on pourrait continuer la liste, elle est longue. On peut se dire que ce climat malsain engendrera à terme des déviances et des victimes profondément brisées. Cinquième point, il faudrait approfondir d'un point de vue psychologique. J'ai appelé ce paragraphe le mécanisme du clivage du moi, le mécanisme du clivage du moi, de clivage du moi. Parce que, au fond, la crise que vit l'Église en ce moment, qui est affrontée à la mise en lumière de perversité d'un certain nombre de fondateurs ou de personnes très en vue, cette crise est peut-être une sorte de paroxysme, je n'en sais rien. Mais en tout cas, la question de la perversité qui se surajoute au péché tout en s'en distinguant, la question de la perversité rend nécessaire l'apport de la psychologie sur le mécanisme du clivage du moi. Une personne a mis ça en lumière, toujours dans le même numéro de famille, pardon, dans un numéro de Famille Chrétienne de 2010, le numéro 1693, Masha Shmakov, un nom bizarre ça, hein, qui est une psychologue et psychanalyste qui a fait des études de théologie aussi à l'Institut catholique de Paris, et qui s'est intéressée de près au comportement de Martial Maciel et à l'histoire des légionnaires. Elle a publié un livre que vous avez peut-être lu, « Le divin et le divan, petits écueils ordinaires de la foi » chez Salvatore, en 2009. Et elle écrit ceci: « Pour se protéger d'une angoisse vécue comme une menace interne de destruction, la personne se scinde en deux. Elle développe deux personnalités accolées l'une à l'autre. La première porte les aspirations morales élevées, la deuxième les actes correspondant à la réalisation des pulsions. Ces deux personnalités ne communiquent pas entre elles. Lorsque la personne habite la première, elle éprouve la sérénité de correspondre à l'idéal moral et religieux, ainsi que la satisfaction d'être reconnue pour son engagement et sa générosité. Lorsqu'elle est agie par la deuxième, elle vit ses pulsions dans la contrainte du regard moral intérieur qui siège dans la première personnalité. La personne a simultanément deux cohérences contradictoires et incompatibles. Cette situation paradoxale apporte les satisfactions de chacun des deux registres, ainsi que celle de n'avoir aucune limite. La personne peut cultiver cette situation de manière plus ou moins consciente et perverse pour obtenir toutes ses satisfactions. Et alors, elle pose la question, par quel mécanisme psychologique une personne peut-elle transmettre ses propres déviances à la communauté qu'elle fonde? Et là, ça me semble très pertinent, elle dit ceci, une personne marquée par des traits de personnalité évoqués ci-dessus a tendance à vouloir réaliser son fantasme de toute puissance. Elle peut utiliser l'institution qu'elle fonde pour étendre son pouvoir, notamment auprès de ses membres. Il lui suffit pour cela de prendre les moyens classiques pour créer une emprise sur les personnes, qui sont principalement la promotion d'un idéal élevé associé à une vision réductrice de la réalité. Deuxièmement, l'obligation d'hyperactivité, ne laissant pas de temps du repos et de la réflexion. Troisièmement, la direction spirituelle intramuros, ne respectant pas la distinction entre fort interne et fort externe. Quatrièmement, la distance envers le milieu familial et amical d'origine. À un tel régime, la partie la plus authentique de la personne s'atrophie. Les personnes se coupent d'elles-mêmes et se soumettent au fondateur. Elles aussi deviennent clivées, non pas par un clivage structurel pervers, comme c'est le cas pour le fondateur, mais par un clivage qu'on pourrait appeler de suradaptation et de soumission. Ce clivage entrave gravement leur croissance humaine. Elles adoptent une identité prête à porter. Elles cèdent à la tentation de se démettre de leur conscience, de leur liberté, de leur engagement, de leur jugement. À l'extrême, cela peut favoriser l'expression de leur perturbation sexuelle sous forme de passage à l'acte en marge de leur vie spirituelle et d'une vie tout simplement morale. Enfin, je terminerai par un sixième point que j'ai intitulé « Reconnaître et soigner les victimes » parce qu'on comprend aisément que ces déviances, ces perversités nécessitent de mettre en place des soins adaptés. Il ne suffit pas de nommer des commissaires pontificaux, d'écarter des personnes les plus problématiques et de penser que les problèmes sont maintenant résolus. C'est une vision de l'esprit. Seule une compréhension en profondeur du phénomène des dérives sectaires peut permettre d'éclairer l'Église elle-même et de mettre en place des solutions pour aider les victimes. L'Église doit reconnaître l'existence de dérives sectaires en son sein et donner à ses responsables une formation sur ces questions. Mais dire qu'il y a des dérives sectaires dans l'Église, est-ce que ce n'est pas contradictoire? En effet, l'Église possède un certain nombre de garde-fous et de régulations censées la protéger, en théorie, contre les dérives sectaires. Elle possède un droit, des textes normatifs, des instances de contrôle. Ajoutons à cela que, contrairement à de nombreuses dérives sectaires issues du protestantisme, les catholiques n'ont pas la liberté d'interpréter les Écritures à leur guise et doivent se référer au magistère et à la tradition, ce qui limite considérablement les risques de déviance. Mais cela suffit-il pour immuniser parfaitement l'Église contre des dérives sectaires? Personnellement, je ne le pense pas, car certaines communautés arrivent à contourner, duper et pour ainsi dire mettre en échec le système immunitaire de l'Église. Au cœur de la dérive sectaire se trouve le phénomène d'emprise, un processus psychologique complexe, invisible et extrêmement destructeur. Un américain psychologue, Stephen Hassan, souligne que le contrôle de l'esprit se décompose en quatre composantes: contrôle du comportement, contrôle des pensées, contrôle des émotions et contrôle de l'information. Et il dit, si ces quatre composantes peuvent être contrôlées, alors l'identité d'une personne peut être systématiquement manipulée est modifié. Alors on pourrait donner une liste de critères qui permettraient de reconnaître une dérive sectaire dans l'Église, mais ce n'est pas le temps ici de le faire. Ça pourrait être l'objet d'un autre exposé. Toute la difficulté repose sur le fait que le phénomène sectaire génère des mécanismes d'autosuggestion redoutables. L'adepte apprend à renier sa propre identité, à se mentir à lui-même. Une personne sous emprise prétendra toujours qu'elle est parfaitement heureuse, même si elle ne l'est pas du tout. À partir du moment où l'Église aura reconnu positivement l'existence de dérives sectaires en son sein, elle pourra faire un pas supplémentaire qui est d'accepter humblement de recevoir de la part des associations de défense de victimes le savoir-faire qu'elles ont acquis, ce qui lui serait utile pour son propre discernement interne et pour obtenir une véritable compétence qui lui manque gravement dans ce domaine. L'Église doit accueillir les victimes qu'elle a générées et mettre en place des SAS et des structures de désintoxication. Pour sortir des mécanismes extrêmement pervers, il ne suffit pas de sortir physiquement de la dérive sectaire, il faut faire une relecture critique de son expérience personnelle, de préférence avec des personnes qualifiées. Ça peut prendre des mois, voire des années. Car, comme disait encore un Américain au congrès de l'IXA, on ne s'adapte pas à un tel système sans intérioriser les attitudes et les habitudes de pensée qui soutiennent le système. L'identité déviante ne disparaît pas simplement lorsque les responsables sont remplacés. L'Église devrait offrir toutes les ressources pastorales et psychologiques nécessaires afin d'aider les bonnes personnes qui se trouvent dans une communauté ou une congrégation dont le fondateur a été déviant, à voir plus clairement que leur désir de faire du bien et d'être bon ne dépend pas d'une congrégation pervertie par des décennies de tromperies. Les bons fruits des membres ne vont pas se flétrir lorsque ces personnes seront séparées du système corrompu qui a profité de leur noble aspiration spirituelle. Actuellement, il faut le souligner, l'Église se trouve encore dans une attitude de déni, voire dans certains cas d'omerta. Elle se trouve maintenant devant un nouveau défi, à savoir former des personnes compétentes sur les questions afférentes à l'emprise sectaire, et deuxièmement, mettre en place plusieurs structures différentes pour accueillir les victimes de ses propres dérives, afin de leur donner la possibilité d'être reconnues dans leur qualité de victime, entre guillemets, et alors de pouvoir entreprendre leur reconstruction. Parce que tant que les gens ne sont pas reconnus comme victimes, ils ne peuvent pas commencer à se reconstruire. Voilà une petite réflexion donc sur les fruits.